La MRC de Bécancour est fière de présenter ce balado qui nous amène dans les coulisses du livre « À village découvert » par le conteur Marc-André Fortin. Bonne écoute!
Chaque village a son histoire. Chaque village a quelque chose de légendaire. Des gens plus grands que nature, puis bien des anecdotes à se raconter. Bienvenue dans le balado « À village découvert » avec le conteur Marc-André Fortin.
Je suis un Suisse fondamentalement urbain.
Je sais, t'es Montréalais.
J'ai déjà quitté une femme qui disait « Moi, je vais aller m'installer en campagne. » Je dis « Ben, ça ne marchera pas. » Moi, je n'irai jamais à m'installer en campagne puis traverser des ponts. Ouais, mais ben, c'est ça.
Au revoir.
Je pense que ça serait mieux qu'on se laisse. Est-ce que une petite dernière fois avant de partir?
Lui, c'est Francis Desilets. Ce gars-là, je le connais depuis... même avant ça. On s'est souvent croisés lors des fêtes historiques, lors des soirées de contes, puis lorsque le coup se faisait léger. C'est un bon rieur, il a un grand cœur, mais surtout, c'est un ami loyal. Mais aujourd'hui, c'est pour son amour de l'histoire. C'est l'historien en lui à qui je fais appel. Parce qu'il s'y connaît en patrimoine rural, en histoire de village et en épopée de fondrant. Il a déjà travaillé au village québécois d'antan, comme historien et consultant. Puis bon, quand j'ai écrit le livre, il savait même pas qu'il allait se retrouver dedans.
Je te l'avais pas dit que t'étais dans le livre.
Non.
Puis t'étais tombé dessus par hasard.
Au fil de mes lectures, je me reconnais.
Pour vous faire une image, Francis est un grand roux, bien costaud, d'une ossature imposante. Il a le sourire franc, l'œil taquin, le genre d'homme à qui on aime faire des câlins. Ben, en tout cas, moi, j'aime ça lui en faire des câlins. Pis c'est à lui que j'ai pensé pour mon personnage de bûcheron de la légende de Sainte-Françoise.
Les rumeurs sur cet homme, télésphore joli, racontaient qu'il pouvait abattre, scier, débiter tant d'arbres qu'il accumulait plus de 13 cordes à l'heure. D'une force à défier tous les hommes forts de la province. Il était pas rare de le voir traverser le village avec sa charrue sur son dos et ses bœufs à sa ceinture. La barbe en sapinage, en racine de patrimoine familial, les yeux comme des lunes d'hiver, de longs cheveux en tignasses de percheron, Télésphore était un vrai homme des bois. Un homme des grandes natures, drette et fier comme une pruche franche de nœuds.
Allô, Val? Elle, c'est Valérie. Son rôle, c'est un peu comme le Jiminy Cricket des livres de contes, mais en version balado et en plus jolie. Ben, un peu.
Hey!
Ben, elle sera la voix officielle du livre. Elle va nous livrer des extraits, nous fera voyager entre les pages et assurément qu'elle va pas se gêner pour me remettre à ma place.
C'est exactement mon rôle. Fait que Marc-André, retourne donc à ton bûcheron.
OK.
J'ai-tu bien dit... Mettons, là, tu dis, moi, je l'ai pas vu. Fais pause ton balado, va sur Google, tape Francis Desilets Conteur.
Ouais, puis tape renouer avec ses racines et tu vas comprendre beaucoup de cette image-là qui a été une publicité pour le Cabaret du Roi.
C'est vrai.
Avec ma grosse face, ma grosse barbe, la barbe qui se transformait en racine. Et c'est là, ça, ce que tu décris là, et là, parce que c'est comme toute l'espèce d'archétype du bûcheron, qu'on imagine poilu et tout ça, je le représente très bien. D'ailleurs, moi, je suis très vendeur en France pour ça.
C'est vrai.
Pour vrai, je débarque en France et c'est comme « Oh, les bûcherons canadiens! » Tu sais, je me mets une chemise à carreaux, le mythe sur deux pattes est là. De la carrure, de l'ostature, comme dirait quelqu'un que je connais. Ça, c'est toi, en passant,
oui,
pour ceux qui se demandent.
Oui, effectivement.
Ce mot-là que tu as inventé, si beau. Et fait que oui, c'est très bien décrit. Pour l'homme fort, pas particulièrement.
Non, je t'ai jamais vu forcer tant que ça.
Non, je m'arrange toujours pour quelqu'un d'autre force, moi.
Mais tu sais, le monde ne le savent pas, là, mais t'es conteur, tout comme moi, c'est ton métier de tous les jours.
Absolument.
Puis dans les contes, on en côtoie des hommes forts.
Beaucoup.
Des hommes forts, il y en a eu au Québec. On doit avoir le ratio homme-pouce carré le plus élevé au monde. Louis Cyr, Horace Barré, Victor Delamarre, Hector Descarry, Joe Monferrand, Jean-Baptiste Grenon, qu'on surnommait le Hercule du Nord, le grand Antonio qui tirait des autobus avec ses cheveux, puis la famille Baillargeon, six frères d'hommes forts.
Leur sœur Géraldine, elle?
Oui, oui, elle aussi. Mais tu sais, des femmes fortes, tu sais. Ma mère était forte quand j'avais 4 ans. Ma tante aussi était forte quand j'avais 4 ans. Ma grand-mère, elle aussi, là, quand j'avais...
OK. Laisse faire, moi le faire. Il y avait aussi Marie-Louise Sirois puis Ernestine Valade.
Pourquoi le Québec est si rempli d'hommes forts? Pourquoi c'est... T'sais, parce que j'ai l'impression que... Oui, il y a des hommes forts peut-être, je sais pas moi, en Biélorussie puis en Tchécoslovaquie, là, quand ils font les concours d'hommes forts, mais... Des hommes forts de qui vont pas devant les lumières, là, des hommes forts de fond de village puis de fond de rang qui lèvent des tracteurs au bout de leurs bras. Il me semble qu'il n'y a pas ça partout sur la planète.
Non, mais c'est une belle tradition quand même ici. Moi, je pense qu'on part vraiment avec Joe Monferrand qui arrive à un moment propice. Tu sais, si mettons, je peux me permettre d'étirer un petit peu là-dessus.
Oui.
Mais Joe Monferrand, il va arriver au bon moment dans l'histoire du Québec ou du Bas-Canada de l'époque. Il arrive un peu après les rébellions qui ont été perdues, si on veut, par ceux qui avaient la fibre républicaine et les patriotes et tout ça. Et il incarne quand même quelqu'un de ce qu'on en disait, parce qu'il y avait des feuilletons dans les journaux qui racontaient parfois sa vie et ses exploits.
Puis, je parle à l'historien qui est en toi, là, ouais. Je veux dire, ce bout-là, c'était déjà romancé ou c'était juste des faits d'actualité?
C'est ça qui n'est pas clair.
OK.
C'est ça qui n'est pas clair. Même qu'on est triste parce que Wilfrid Laurier lui-même, pas très loin d'ici d'ailleurs, avait écrit une biographie de Joe Monferrand, mais elle a été perdue avec le temps et on n'en a retrouvé que l'introduction.
Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le milieu des hommes forts, ben Joe Monferrand, c'est...
Le cul sur le bord du Cadiamant, les billes dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit boutin avec le grand Joe Monferrand. On a parlé du vin, de la pipi, du beau temps. Puis j'ai dit, Joe, dis-moi comment que t'es devenu un géant. Que t'es devenu un géant. Il dit, le cul sur le bord du Cadiamant.
Ben, c'est pas juste une toune de Gilles Vigneault non plus, là. Joe Monferrand, c'est un draveur dans la région des Outaouais. À draver de la pitoune de 8 pieds comme s'il jonglait avec des baguettes chinoises. Une force à se battre contre 150 Irlandais. Gabin, OK? Il y avait les Irlandais qui voulaient traverser un pont. Il était 150 exactement. Puis là, on va pas toutes te les nommer, là, on n'a pas le temps. Mais Joe Monferrand, OK, ils ont knock-outé les 150. Pif, paf, pouf, bedang, bing, comme dans la série Batman de 1970.
Hey, oh, Marc-André, c'est pas un conte sur Joe Monferrand que tu fais ici, hein? Ce serait comme le fun que t'en viennes à l'essentiel.
OK. Homme fort, Joe Monferrand.
À la fin de sa vie, sont arrivés les Louis Cyr, sont arrivés les Barré, les tout ça, et c'est devenu une tradition de l'homme fort. Puis je pense que ça valorisait un peu les gens de voir que, ben écoute, il y en a un de notre gang qui est capable de conseil aux autres.
Mais si mettons, l'événement moderne de Dupin et des Jeux, mettons, c'est-tu ça? Parce que, tu sais, en faisant mes recherches, là, mettons, là, moi, dans un de mes contes, La Chapelle des Draveurs, il y a le curé Tétrault qui lui organise des concours de soulevage de pierres et de cloches.
Ouais.
Puis il me semble qu'il y avait ça partout. Tout le monde voulait défier tout le monde. Tu pouvais habiter Manceau, je vais défier le gars de Saint-Pierre-les-Béquets parce que la rumeur veut que tu es plus fort que moi.
Son caractère difficile était aussi notoire que ses exploits herculéens. L'abbé Tétrault ne se faisait pas prier pour user de sa force et ses prouesses dépassaient l'au-delà de sa paroisse. À titre d'exemple, lors d'une grande giboulée de printemps, après un déraillement de train, Frédéric Tétrault plaça lui-même de nouveaux rails en bois et déposa la locomotive sur sa nouvelle voie boisée. Le curé bénit alors le convoi et celui-ci put donc rattraper son retard. Les voies ferrées du Seigneur sont impénétrables.
D'ailleurs, j'adore ce conte parce que moi, je suis allé à l'école Frédéric Tétrault. Fait que ça...
Pour de vrai?
Oui, quand je suis jeune.
C'est là que tu me dis ça. Pour faire des balados, il faut que tu me dises ces informations-là.
Ben oui, mais tu sais, j'étais allé 2 ans quand j'étais jeune.
OK.
Oui, j'ai fréquenté cette école-là. Puis on entend tous ces noms-là, on ne le sait pas. T'sais. Après ça, OK, il vient de là, il a fait ça. Bon, j'en prends puis j'en laisse. Là. Je prends pas ça comme un livre d'histoire strict et droit, ton livre de contes. Mais non, j'aime bien ça. Mais pour ce qui est des hommes forts, je pense qu'il y a toujours une fascination de voir ça aller. Et c'est la façon simple et rapide de se défier d'un bord à l'autre, d'un village à l'autre, d'une paroisse à l'autre, et de transporter aussi sa petite gloire un peu partout. Puis tu disais des pains et des jeux, ça en prend. Ça en prend des jeux. Ça en prend des choses pour...
C'était pas mal les plus populaires. En tout cas, ben, enfin, on participe pas. Là. On regarde du monde faire du soulevage de plateforme avec 18 personnes dessus, mais on s'associe à ces hommes forts-là? On veut s'associer?
Je pense qu'on s'identifie, en effet. Ouais. Tu veux t'identifier, tu te gardes. Puis je pense qu'il y a ce point-là aussi de « t'es un gars de chez nous, t'sais. »
Ça me rappelle mon père, quand j'étais ticu, à crier à réveiller un mort quand le Canadien de Montréal scorait un but. « On a gagné! » qui disait « on », comme si c'était lui qui venait de faire la passe à Guy Lafleur.
Et ça, puis il y en a qui rêvent encore que le but d'Alain Côté, il était bon, hein?
Ouais. J'avais déjà lu dans quelque part, je sais pas si tu avais vu ça dans tes cours d'histoire, mais tu sais, mettons qu'on serait un peuple d'hommes forts parce que à cause des traversées, on aurait comme la coindure. Je veux dire, là, t'avais deux mois de traversée à faire dans le temps de la Nouvelle-France. Tu pouvais mourir dans la traversée. Ceux qui restaient avaient la coindure. Fait qu'à un moment donné, est-ce que la coindure se marie avec un autre coindure puis on forme des petits coindures?
C'est fort possible. Parce que moi, comme historien, quand je parle des coureurs des bois, puis c'est un de mes dadas, là, je donne des ateliers là-dessus aussi. Donc, je raconte leur mode de vie, leur histoire. Et je parle de ça, justement, de cette coindure-là ou du fait que faut déjà que tu sois aventurier pour partir de France puis t'en aller sur un autre continent à deux mois de voyage, à laisser ta famille, laisser ton monde. Puis il y en a plein qui venaient juste travailler. Hein. Il y en a plein qui faisaient des comme on fait des fly-in, fly-out aujourd'hui. Là. Okay. Tu vas travailler dans les mines dans le nord, tu reviens. Il y en a qui venaient pour 2 ans ou 3 ans puis qui repartaient. Le voyage était payé, tu venais travailler, tu faisais ton argent, tu repartais. Mais ceux qui s'installaient, qui décidaient d'avoir tout abandonné, partir à l'autre bout de la terre, je pense que tu es déjà aventurier, je pense qu'il faut déjà que tu ailles la coindure. Parce que tu sors de ton petit village ou de ta place où tu as toujours vu le même horizon, tu as toujours ton même monde, pouf, tu es transporté dans un autre univers. Puis là, en plus, là, ils te vendaient ça, la Nouvelle-France, à l'époque. Là, c'était beau, c'était beau d'un pamphlet, là.
Oui, c'est ça.
Un dépliant, là, mais tu débarquais, puis oups, il y a des affaires qu'il avait oublié de te dire.
Au premier hiver, tu t'en rappelles, j'imagine?
Pierre Boucher, il avait fait un beau livre sur l'histoire de la Nouvelle-France, puis il avait brossé le tableau quand même joli, là. Mais oui, moi, je suis d'accord que ça se peut que, pour les hommes forts, ça vienne un peu de là. Il y a ce côté-là, certain.
Puis t'avais déjà entendu parler d'un curé qui était fort? C'est quelque chose que, historiquement, ou même dans les contes, mis à part le mine à ma chapelle des Draveurs.
Écoute, je suis obligé de te dire que oui, j'avais entendu
c'est
parler.
Parfait, c'est ça.
Mais de toi.
OK. Avant de lire, je l'avais parlé.
Mais un curé fort, non, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais je t'avoue que, oui, depuis les années qu'on se connaît, j'entends ton curé homme fort.
Ouais, avec sa prise du sacrement du pardon, mon oncle.
Ça, là, ça, encore une fois, je le relisais hier pour préparer cette entrevue-là. Le sacrement du pardon, mon oncle, là, ça, je les ris pas mal fort.
Des hommes forts, des vrais, c'est ceux qui savent forcer au bon moment, qui forcent quand ça compte, qui forcent pas juste pour des lettres de noblesse. Parce qu'une lettre, ça se perd, ça se froisse, puis ça se passe. Ben, ça se passe dans le sens, ça se passe par le bureau de poste. C'est de là que toutes les lettres arrivent ou partent, là, c'est selon. Bureau de poste. C'est l'endroit des grandes nouvelles, des colis lointains et des doux potins.
Louis se rendait à la gare la veille pour y prendre les colis, les catalogues, les journaux, les lettres et les cartes postales. Entre loup et chien, avant même que le soleil se lève, Louis se promenait dans le village pour distribuer les paquets. Il lui arrivait de finir sa course avec un sac aussi plein qu'au départ. Louis prenait aussi les envois. Valeureux postillon du village, il connaissait les joies et les peines de tout un chacun. Il savait que Mme Chauve s'était procuré des vêtements de la grande, grande ville. Il était au courant lorsque M. Valois se commandait de nouveaux outils. Il connaissait également les correspondances amoureuses de la veuve Dupuis. Jamais il se laissait aller au commérage et au « qu'en dira-t-on ».
J'en profitais parce que, tu sais, parce qu'il y a des affaires là-dedans que toi, tu sais même pas. OK? Qui n'a rien à voir avec le métier de postier que ton père faisait.
Est-ce que je peux me permettre?
Ouais, vas-y.
Facteur.
C'est quoi la différence entre facteur et postier?
Postier, t'es dans la bâtisse. Facteur, t'es sur la route. Le postier, il est derrière son comptoir.
Ah, OK.
Et les gens viennent le voir. Le facteur.
Ah, parce qu'il
livre.
Fait comme en poste?
Peut-être.
Okay.
Les postes, la poste, postier, là, mais, ouais. Mais c'est vraiment la différence. Plus contemporaine, je ne sais pas pour cette époque-là, mais tu sais, mon père se faisait souvent dire « Ah, t'es postier. » Non, postier dans le bureau de poste. Moi, je livre le courrier, c'est le facteur.
OK.
Puis moi je le trouve très beau. Il y a quelque chose qui me touche parce que oui, je suis fils de facteur et petit-fils de facteur. Mon grand-père l'a été aussi. Mon père et mon grand-père ont travaillé 17 ans ensemble dans le même bureau de poste. Et c'est drôle parce que mes parents ne sont pas roux, moi, tu sais, ça vient du côté de ma mère. Puis là, il y a souvent des gens qui me le demandaient, je voulais juste compter cette petite anecdote-là. Tes parents sont pas roux, Francis? Non. Es-tu le fils du facteur? Ouais. demande... Ou ils commençaient par demander, t'es-tu le fils du laitier? Oh non, 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 non. Moi, le frère à ma mère, c'était le laitier chez nous. Je sais pas, non, non, ça c'est sûr que non.
Pour de vrai?
Oui.
C'est un laitier?
Oui, oui. Oui, il y a eu beaucoup de laitiers. Dans la famille, à ma mère, la laiterie, la motte de Drummondville, il y a eu ses belles années. J'ai eu quatre de mes oncles, puis un de mes cousins qui ont travaillé pour la laiterie, la motte, et mon grand-père aussi. Fait que, il était vraiment le laitier chez nous. Je dis non, 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 c'est le frère de ma mère. Puis là, ça poursuivait avec le facteur. Oui, oui, moi, ouais, ça, je suis fait ça.
Tu sais, comment la vie peut être bien faite. Hein?
Et mon père passait la malle chez nous. Tu sais, il aurait pu avoir une run ailleurs en ville, mais non, il passait chez nous pendant des années.
Il s'auto-livrait son propre courrier. Puis, il faisait-tu à la fin de journée ou il passait devant chez lui, déposait dans la boîte à mal?
Non, non, il passait dans la run, il déposait ça dans la boîte à mal. Il revenait le soir, oh, encore des comptes. Mais il n'était pas si surpris que ça.
Ouais, c'est ça. Puis, je suis sûr que, connaissant ton père, il devait la faire à chaque fois, sa blague.
Oui.
Mais avec le temps, as-tu fait des recherches sur l'historique des postiers, des postières, des facteurs, des postillons? Pas nécessairement en Nouvelle-France, mais dans les villages. Mettons qu'au village québécois d'antan, il y avait le maître de poste.
Le peu que je connais du maître de poste, c'est que c'est un poste, c'est une sinécure. Là, c'est quelque chose que quand tu l'obtiens, c'est important. Parce que tu t'assures une stabilité d'un fonctionnaire fédéral.
J'avoue.
Et en plus, presque jusqu'à aujourd'hui, dans un village, c'est un peu... c'est quasiment impossible de le céder par testament, là, tu sais. Tu pouvais l'assurer à ton fils ou à ta fille, ou, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes aussi qui ont été maîtresses de poste. Et j'entendais dernièrement que dans un petit village de l'Ontario, il en reste une, que c'était sa mère qui était là, la fille l'a repris, puis là, c'est le dernier bureau de
famille,
poste.
Ça peut se transmettre de famille en même temps.
C'était pas clair, mais oui, ça pouvait quasiment se transmettre, puis t'assurer, surtout si t'avais les bons contacts aux bons endroits. Ça pouvait devenir aussi un enjeu politique de récompense pour quelqu'un qui avait servi la bonne cause ou le bon parti ou la bonne couleur, comme on disait.
Oui, parce que j'imagine aussi, à un moment donné, le maître de poste au courant de bien des affaires, tu sais, tout transige par là. Puis,
selon Fred Pellerin, oui, en tout cas.
Aussi, mais puis j'imagine, je ne sais pas si tu as vu le film La Postière. Tu sais, m'en est à des castes.
Plus qu'une fois.
Ouais, mais on venait au bout de la postière.
Ah oui, OK.
Dans son bureau.
La lettre, là.
La lettre, oui, qu'elle décachetait tout ça.
Je m'en souviens pas, ce bout-là.
Oui, c'est ça. Hein, la mémoire sélective.
Non, je m'en souviens très bien. Il y a une mythologie autour de la postière ou du postier qui espionnerait les gens du village, puis qui sait tout, puis que c'est des choses qu'on sait pas. Il me semble qu'on l'a tellement entendu que même si on faisait le ménage puis qu'on en retranchait de tout ça, du bon grain puis de l'ivraie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, il resterait quand même un bout de ce qu'il y a des gens qui auraient espionné dans les lettres. La nature humaine étant ce qu'elle est.
Le bureau de poste, c'est le centre du village, le centre écrit, le centre du manuscrit. Parce que le centre du village de l'oralité, de la parole conteuse, ben c'est le parvis de l'église. Mais le bureau de poste...
Il y avait son côté aussi important que l'Église. L'Église restera toujours centrale, Marc-André. Le perron de l'Église, plus que l'Église, je te dirais, parce que c'est l'avant puis l'après qui était plus intéressant.
Donc, le perron de l'Église serait le bureau de poste de l'oralité.
Et voilà. Et la place pour regarder les courses de chevaux.
Oui, aussi, c'est vrai.
7 jours avant le mariage, comme le voulait la tradition superstitieuse, toute la population s'était regroupée devant l'église pour admirer les coureurs et leurs bêtes. Le départ serait donné au devant de l'église pour ensuite se diriger vers le 8e rang. Par la suite, les coureurs devraient tourner sur le 12e rang en direction du rang croche et de sa courbe aux épinettes. Le retour se ferait par le 6e rang pour revenir au point de départ.
Pour moi, les courses, c'est l'été 1982, au circuit du Mont-Tremblant. Mais les courses d'auto, là, pas de chevaux. En même temps, j'ai pas trop souvenir de regarder les voitures passer, mais plus le souvenir de faire la course avec mon cousin, dans le petit boisé à côté, pendant que mon père et mon oncle, eux, ils regardaient les voitures. J'entendais tout ça, mais j'attendais surtout que ça finisse. Mais Francis, avant la voiture, c'était les chevaux. C'est arrivé quand, ce genre de course-là, dans le Québec?
C'est arrivé avec les chevaux.
Ah oui, ça, je...
Non, mais dans le sens que pas longtemps après que les gens aient pu acquérir un cheval, Tout de suite, il y a eu des ordonnances du temps de la Nouvelle-France pour que cessent les courses les dimanches sur les places.
OK, il y avait des courses en Nouvelle-France. Ah, ça, je ne savais même pas ça.
Oui. Puis on a Fred à côté qui opine du bonnet. Oui. Les gens avaient un cheval, les jeunes surtout. Puis là, le dimanche, la messe, tu vois d'autres mondes, il craint ma machine. Puis ah ouais, il tape sa petite fesse. Puis ouais, on part là. Puis que là, à un moment donné, interdit de faire des courses le dimanche devant l'église parce que c'était dangereux, renverser du monde.
Ouais, OK.
Puis là, tu sais, bon, t'as le cheval canadien au début qui arrive, t'en parles aussi dans des contes, le petit cheval de fer. Mais là, à un moment donné, quand tout le monde a son cheval ou à peu près, tu sais, ben, ça devient un petit peu plus facile d'en acquérir un avec le temps. Ben, ça se craint. Les jeunes, ça veut se montrer. Fait que oui, Marc-André, il y avait de la course. Pour toutes les ordonnances qu'on peut retrouver sur. Vous ne devez plus faire de course. Ça veut dire qu'il y en avait pas mal déjà. Et dans les villes, tu sais, sur le bord des églises, on voulait courser. Puis là, on va remonter après ça jusqu'à Alexis le Trotteur, là, puis lui qui a coursé.
Ah, c'est vrai, ben oui.
Qui a coursé avec un peu tout, qui aurait planté des chevaux à la course.
Petite aparté importante. Alexis le Trotteur. Tu sais, le gars du Saguenay qui court vite, plus vite que les chevaux, plus vite que le train. Ben, en fait, pas plus vite que le train, finalement. Il est devenu une légende. Mais tu sais, ses exploits physiques ont tellement été amplifiés que ça devient difficile de séparer la réalité du mythe. Dans les contes, les légendes, la réalité se transforme, se transmute au gré des croyances, des exagérations et des superstitions. Je suis sûr que si on touchait au pied d'Alexis pendant une semaine, on devait courir nous aussi bien plus vite.
On est-tu plus superstitieux au Québec qu'ailleurs? On est-tu plus superstitieux? Mettons là, le centre du Québec. Merci Bécancourt. Mettons, on est-tu plus superstitionneux que le bas du fleuve, l'Abitibi? Y a-t-il quelque chose dans notre ADN?
Définitivement. Il y a quelque chose dans l'eau, en fait.
Puis si on est tant et tellement superstitionneux, c'est parce qu'on est un peuple de rêveurs. On se compte pour rêver, puis on y croit. C'est pas moi qui disais ça, là, c'est Balzac. Balzac disait « La superstition, c'est une manière d'espérer. » Puis ben, rien de mieux que d'espérer ensemble. Seul, c'est impossible. Ensemble, c'est le début de quelque chose.
Pourquoi on se réunit?
Ouais. Ben, je pense que moi, depuis
C'est-tu un parce an... que, mettons, on est tellement tout seul, le premier voisin, il est à 1,5 mille, puis on n'a pas le temps de se voir parce qu'on est occupé toute la journée, puis on va se trouver des moments, puis c'est là qu'on se réunit.
Je te dirais que depuis un an et quelques, là, je me rends compte que c'est viscéral de se réunir.
Ah oui, oui.
Puis qu'on a ce besoin-là. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, dans la population qui sont faites pour être ermites, pour ne voir personne. Pourquoi on se réunit? Ben, premièrement, pour le besoin d'entendre l'autre, de ne pas entendre juste sa voix dans sa tête, le besoin qu'il se passe quelque chose. C'est Et après ça, il y a tout le partage de connaissances, ne serait-ce que le partage de blagues, tu te retrouves dans un autre monde que juste le tien, que juste le même monde d'habitude. Ça aide à passer à travers une année, à travers une vie. Là.
Parce que j'imagine qu'il y a des villages où on se créait des événements. J'imagine qu'à un moment donné, tu sais, t'es parti de sucre, là, on va inviter toute la parenté, tout ça, pour venir nous aider parce que c'est fastidieux, mais c'est aussi, on va se créer l'événement pour se rencontrer. Là, il y a eu Noël pendant longtemps, puis là, le carême, dépendamment de l'année, on est dedans ou
ben oui, puis la partie de sucre, on s'entend que ça culmine vers la fin du carême. Hein?
Ouais, c'est ça.
Puis que là, tu recommences à manger du sucre, c'est le bon temps, c'est quelque chose qui arrive. Après un carême, tu t'es privé, oups, on s'en remet... Ça remet un petit peu de pep dans le soulier avec quelque chose de sucré. On s'empiffre un peu plus. Notre repas de cabane à sucre traditionnel, il est assez copieux, là.
Puis si tu... C'est drôle parce que... Bon, dans les recherches, j'ai pas vu ça, mais... Toutes parce que c'est pas toutes des fêtes religieuses, nos moments de rassemblement, tu sais. Oui, il peut y avoir la Noël, puis on va se réunir, puis c'est le moment. Mais tu sais, la nouvelle année, c'est pas une fête religieuse. La partie de sucre, c'est pas une fête religieuse.
Mais,
récoltes au mois d'août, c'est pas une fête religieuse.
Non,
mais on se crée des événements, c'est une tradition.
Mais on se crée ou on s'ancre, ou on se met en phase avec les événements qui existent. Là, tu as nommé des moments de l'année où il faut quand même travailler. Puis,
ouais, c'est vrai.
Tant qu'à travailler, aussi bien se réunir. Puis tant qu'à se réunir, bien, aussi bien terminer ça en rendez-vous. Mais il y a aussi qu'il faut se souvenir que jusqu'à l'arrivée de l'automobile, où ce qu'on se met à rouler, avant l'arrivée de l'automobile qui va prendre sa place et une certaine place, les gens se visitent beaucoup l'hiver. Parce que c'est la période de l'année où c'est plus facile de voyager avant l'automobile.
Ah oui, ben oui.
Quand tu glisses sur des patins, puis avec un cheval, ben, tu peux traverser des rivières gelées, tu peux traverser des lacs gelés, tu peux aller à des places que tu ne pouvais pas aller avant. Puis en prime, si tu es cultivateur, en plus, tu as du temps.
Oui, tout au moins, ouais.
Fait que le monde se visite, le monde se rassemble beaucoup plus l'hiver à cette époque-là. C'est d'autres occasions aussi. Et là, comme tu disais, pas besoin de fête religieuse, pas besoin de rien. Juste besoin d'avoir envie de se voir, puis de se faire chauffer 2-3 briques pour pas avoir fret aux pieds dans la carriole.
Parce que le conte, ça se fait pas seul. Ça prend des oreilles pour l'entendre. C'est dans les rassemblements qu'on se raconte, mais que surtout, on se rencontre. Le partage des souvenirs, des aspirations, des appréhensions, le partage du passé, la création d'un futur. C'est ensemble qu'on compose les histoires de demain. Des histoires aussi grandes que nos rêveries.
Merci à notre invité, Francis Desilets, pour sa participation. Merci à la Société acadienne Port-Royal de la ville de Bécancour pour son accueil. À Village Découvert, le balado est une production de Via 95 réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bécancour dans le cadre d'une entente de développement culturel. À l'animation, Marc-André Fortin et Valérie Deschamps. Réalisation, adaptation et scénarisation, Valérie Deschamps. Concept et développement du projet, Philippe Saint-Pierre. Images sonores, Dominique Brouillard. Recherche, Sandrine Pelletier. Technicien de production, Justin Savard. Captation, montage et enrobage sonore, Philippe Saint-Pierre. Sur la base de la publication À Village Découvert du conteur Marc-André Fortin et sur une idée originale du comité culturel de la MRC de Bécancour. Ont aussi participé au développement du projet Louis-Martin McCardle et Marie-Claude Tremblay pour Via 95. Marthe Taillon, Isabelle Rouette et Kathleen Brisebois-Gagnon pour la MRC de Bécancour.